Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour à tous, bienvenue sur la suite de cette émission. C'est l'heure de se retrouver pour la suite de notre série qui se termine aujourd'hui. Est-il normal de faire des efforts dans son couple ? Dans cette émission d'aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la suite. Nous avons commencé à poser des jalons sur l'importance de faire des efforts, sur la manière de faire des efforts, en travaillant sur les secteurs, les domaines et les sujets. Et j'estime que vraiment travailler à faire des efforts en couple est une des expériences naturelles de l'école de la vie à deux. Si vous prenez le train en marche, vous avez tout à fait le droit de le faire. Je ne peux qu'espérer que vous avez intégré l'importance de faire des efforts dans votre couple. Vous savez qu'il va dans le mur si la notion d'effort vous est étrangère. Et si votre projet n'est pas de vivre une amourette, mais de construire un couple solide, vous avez forcément franchi le pas d'inscrire les efforts dans le programme de votre vie à deux. En tout cas, je le souhaite vivement, parce que si ce n'est pas le cas, comme je viens de le dire, votre couple va dans le mur. Dites-vous qu'aucune année, aucun trimestre, ni même un mois ne passera sans que vous ayez à faire des efforts pour votre couple. D'ailleurs, c'est peut-être en soi hyper excitant. Imaginez qu'au travail, vous ne soyez confronté qu'à des situations que vous connaissez et pour lesquelles vous n'aurez jamais à dépasser votre niveau de compétence, vos aptitudes, votre savoir. Vous commenceriez par vous ennuyer avant de tenter de changer de société. Vous voudriez en trouver une qui vous place face à certains défis, et ce serait alors l'occasion de puiser dans vos ressources pour vous rendre compte qu'elles ont un fond, une limite. Et c'est là le fait de devoir dépasser vos potentiels qui rendra votre nouveau job excitant. Naturellement, vous avez besoin que l'on vous tire vers le haut, de trouver des opportunités d'être tiré vers le haut, de faire des progrès, de faire des efforts, d'apprendre ce que vous ne connaissiez pas, de vivre des expériences que vous n'avez pas faites jusqu'à maintenant. Pourquoi alors ne pas regarder votre vie de couple comme un défi ? Le fait de vous retrouver sans solution ou à bout de ressources pourrait représenter un défi excitant qui plus est. Pourquoi dans le travail vous vous sentez challengé et pas dans votre couple ? Ou bien pourquoi vous trouvez normal d'être challengé au travail et pas dans votre couple ? En jetant un petit regard en arrière sur votre propre évolution, vous pouvez facilement constater que c'est lorsque vous étiez à bout de ressources que vous avez fait appel à des éléments non acquis pour dépasser votre manque de savoir et de savoir-faire. C'est alors que vous avez demandé de l'aide dans le but d'élargir votre horizon, vous avez consacré davantage de temps pour une tâche donnée, pour une mission particulière. Vous avez pris du recul pour réfléchir. Vous avez fait des recherches pour approfondir ce que vous aviez pris conscience de ne pas maîtriser. Et vous avez créé de nouvelles manières de faire, constatant que vos approches acquises ne convenaient plus. Pourquoi ne pas faire cela dans votre couple ? Vivre heureux en couple ne relève pas du tout du hasard. Pas du tout, jamais. Et quand le conjoint et le couple font partie d'un projet, là, le bonheur s'installe dans le couple. Si le couple estime que leur bonheur dépendra du hasard, des aléas de la vie, les choses seront vraiment différentes. Et évidemment, la notion d'effort ne sera pas présente. Mais comme nous avons dit depuis le début de cette série que l'effort est intégré, inhérent à la réalité de la vie du couple, eh bien, il n'est pas du tout question de laisser quoi que ce soit au hasard, sans vouloir non plus rentrer dans le calcul permanent de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, c'est pas la question. Mais intégrer l'idée que le bonheur n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi ? Parce qu'en général, les actions concrètes d'investissement sont mises en place quand on estime qu'il n'y a pas véritablement de place au hasard. Comme les actions que je viens de mentionner, les 5 actions que je viens de mentionner, je vais vous les rappeler. Eh bien, ce sont des actions qui font appel à une volonté d'action concrète en guise d'investissement. La première action, demander de l'aide, dans le but d'élargir votre horizon. Deuxième action, consacrer davantage de temps à la chose que vous estimez ne pas maîtriser, qui mérite de nouvelles compétences, du temps pour réfléchir, pour savoir comment vous y prendre. La troisième action, elle consiste à prendre du recul pour réfléchir. La quatrième action consiste à faire des recherches pour approfondir ce que vous avez pris conscience de ne pas maîtriser ou de devoir mieux maîtriser. Et enfin, la cinquième action consiste à créer de nouvelles manières de faire ce que vous avez à faire, constatant que vos approches acquises ne convenaient plus. En somme, l'objectif est de contourner le piège de la limitation qui consiste à travailler aux efforts dans son couple en visant le sujet. La semaine dernière, je vous expliquais qu'il y avait deux manières de travailler sur les efforts dans son couple. La première consiste à entendre les sujets sur lesquels votre conjoint attend des efforts. Je vous donnerai des exemples différents de ceux de la semaine dernière pour vous rafraîchir la mémoire et ce sera plus aidant. Votre conjoint peut donc attendre des efforts sur des sujets, et notamment sur des sujets suivants. Prévenir de votre heure d'arrivée quand vous quittez le travail. Maîtriser votre appétit alimentaire, ou peut-être même dans d'autres domaines. Le toucher plus souvent, être plus kinesthésique. Lui offrir un petit cadeau de temps en temps. Ranger la vaisselle quand vous sortez, quand vous l'utilisez, la ranger à sa place. Baisser la battante des toilettes quand vous quittez les WC. Vous brosser les dents avant de venir vous coucher ou remplacer le rouleau de papier toilette quand vous avez terminé le rouleau, que vous êtes le dernier à l'utiliser. Et puis la liste peut être longue. Je me rends compte que je souris en vous donnant cette liste. Plusieurs de ces exemples sont tirés d'entretiens que j'ai avec des couples alors que finalement je me retrouve dans un terrain commun quelque part, vraiment concret pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais vraiment pour moi, j'y vois des réalités très très concrètes, compte tenu du fait que, comme je l'ai dit, ça me rappelle des entretiens avec plusieurs couples qui avaient besoin de travailler pour mieux s'entendre. Prenons un des sujets que je viens de mentionner. Si vous mettez votre énergie à faire des efforts pour changer sur ce sujet, votre conjoint sera content, a priori, mais il peut ne pas être satisfait. Vous êtes en mesure de comprendre la nuance entre un contentement ponctuel, on pourrait dire une action plaisir, et une satisfaction plus ancrée en relation avec un besoin. Et comme je l'expliquais, le fait de chercher à répondre à une demande formulée sous forme de sujet permet d'apaiser sur le moment. Mais rien ne dit que ce sera le cas dans le temps. L'inconvénient de chercher à faire des efforts en visant le sujet de la demande est que vous risquez de passer à côté du besoin de votre conjoint. L'approche par sujet vous pousse à agir en exécutant en plus. Vous chercherez à répondre à l'immédiateté. Le gros avantage, c'est que vous gagnerez la paix conjugale immédiatement. Mais cette paix sera acquise au détriment d'un projet qui produit la vie. Projet en général produit la vie. C'est un peu comme la Pax Romana qui était instaurée par l'Empire romain entre le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Une paix trompe-l'œil, comme l'explique si bien des articles que je vous mets en lien sur le blog Couple Russe, si vous avez envie de voir cette différence entre la surface et le fond, et qui a été publié par l'Université de Genève. La paix est belle quand elle est le fruit d'un projet construit et qu'elle n'est pas subie, même par vous-même. La paix sans la liberté n'est pas la paix. Continuer à travailler par sujet consiste à rester dans cette dynamique d'une Pax Romana, d'une paix de surface, d'une paix en trompe-l'œil, d'une relation dans laquelle on va chercher à satisfaire le conjoint sur le moment et peut-être à se débarrasser de certaines choses et à éviter de progresser soi-même, ce qui est un petit peu dommage. Je préfère que vous continuiez à travailler par domaine parce que je considère que c'est une des clés du succès des efforts dans son couple. Travailler par domaine vous conduit à devenir co-auteur. Et j'aime beaucoup ce terme parce qu'un auteur, c'est quelqu'un qui écrit lui-même, qui écrit sa vie, qui écrit son histoire. Et là, vous êtes co-auteur parce que vous êtes dans un couple. Et vous êtes donc co-auteur de ce que vous mettez en place dans votre couple. Vous ne ferez plus d'efforts pour répondre à l'immédiateté, mais pour atteindre un projet que vous écrivez en couple. Et les domaines dépendent des couples, là encore. En voici une petite liste. La communication dans le couple, la manière de parler aux enfants quand vous êtes en colère, la limite des sujets intimes abordés avec les amis, par exemple la présence d'amis, l'expression de vos frustrations dans le travail, etc. Et si vous avez été attentif ou attentive, vous avez remarqué quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Eh oui, tous les domaines que j'ai mentionnés peuvent entrer dans un même secteur qui pourrait être celui de la communication, par exemple. Toutefois, notez bien qu'un secteur est défini différemment par chaque couple. Là, je vous donne un exemple. En me basant sur un des exemples mentionnés, vous pouvez constater que vous ne pouvez pas faire grand-chose dans l'immédiateté sur les quatre sujets que je vous ai présentés. Je peux reprendre la communication dans le couple, la manière de parler aux enfants quand vous êtes en colère, la limite des sujets intimes abordés en présence d'amis ou de tiers, et l'expression de vos frustrations dans le travail. Il n'y a pas de possibilité de répondre dans l'immédiateté et de satisfaire immédiatement votre conjoint en prenant une approche par domaine. Vous aurez donc besoin de prendre du recul en cherchant à écouter votre conjoint pour connaître son besoin quand il vous demande de faire un effort dans. Et je prends un des exemples qui est là présent, dans la communication du couple par exemple. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce n'est pas aussi précis que la demande du sujet pris en exemple la semaine dernière sur la baisse des dépenses dans le domaine des jeux vidéo. Ici, dans le domaine de la communication, dans le couple, vous aurez besoin de faire preuve de créativité. Vous tâtonnerez. Vous chercherez le moyen de vous approcher du besoin. Je pourrais même dire que vous créerez de la vie au lieu d'être un exécutant. Il est possible que votre conjoint n'ait pas écouté cette émission. Et dans ce cas, il ne comprendra pas ce que vous voulez vivre si vous lui parlez de faire des efforts par domaine. Si c'est le cas, sans chercher à lui expliquer, si vous l'entendez, vous demandez un effort sur un sujet, mettez-vous à son écoute pour l'amener à vous définir le domaine dans lequel il attend un effort. Vous verrez, il se sentira écouté et mieux compris que si vous lui répondez simplement que vous êtes d'accord d'accéder à sa demande en faisant un effort. Cette demande peut être vécue à sens unique. C'est une des forces de l'approche par domaine. Elle permet de redonner de la perspective à une relation qui avait tendance à se scléroser dans une liste de demandes d'efforts. Un des avantages du travail par domaine est la possibilité de viser plus large, plus haut et plus loin. Cela dit, certains le voient comme un inconvénient. Ils préfèrent cuisiner plus si leur conjoint leur a demandé de cuisiner plus, s'il leur semble être certain ainsi de ne pas passer à côté de la demande. Si la demande est trop large, ils ont la crainte de passer à côté, éventuellement d'insatisfaire leur conjoint. Mais en général, ce sont les mêmes personnes qui arrivent à la conclusion qu'après avoir cuisiné plus, par exemple, leur conjoint a ajouté de nombreux points à la liste. Alors ils se sentent comme des pantins, à devoir faire ça, à devoir faire ci, et à ne pas vraiment comprendre dans quelle direction ils vont. Pour ma part, je vois un avantage énorme dans le fait de travailler par domaine. En ce sens qu'il permet au conjoint demandeur de se sentir compris, d'élargir son angle de vue en exprimant davantage de choses que sa simple demande de sujet initial, et qu'en plus, elle permet cette méthode au conjoint demandeur de jouir de davantage d'actions en relation avec l'effort demandé que s'il ne s'agissait que de sujets. Pour illustrer mon propos, je vais vous proposer de regarder les deux méthodes avec le même exemple. Ça permettra de vraiment percevoir la différence de manière plus concrète. À supposer que votre conjoint vous demande de faire l'effort à veiller à ce que les enfants mangent plus tôt tous les soirs de la semaine. La demande paraît claire. Si on adopte la méthode par sujet, le conjoint recevant cette demande se placera en exécutant sans connaître la profonde préoccupation de son conjoint demandeur. Il fera en sorte que les enfants mangent plus tôt que d'habitude. Quel est le besoin du conjoint demandeur? Que les enfants mangent plus tôt? Ok, si c'est le cas, bingo, c'est gagné. Mais il y a de fortes chances que ce soit un besoin plus profond qui soit manifesté par cette demande. Il est donc possible que malgré le fait que les enfants mangent plus tôt qu'avant, il demeure une certaine insatisfaction chez le conjoint demandeur. Rien n'est sûr cependant. Il est aussi possible que le besoin soit comblé. Mais vous voyez que cette méthode laisse une trop grande place au hasard. En reprenant la même demande, le conjoint recevant qui vous sera désireux d'axer son attention vers un domaine poserait forcément des questions. Et voici comment l'échange pourrait s'articuler. Tu trouves que les enfants mangent trop tard? Oui, j'aimerais qu'il y ait plus de temps entre la fin du dîner et le coucher. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que c'était mieux pour la santé de se coucher au moins 1h30 après le dîner. Et tu expliques ça comment? Qu'est-ce que ça changerait en fait? Bien, en fait, comme la digestion a le temps de se lancer après le dîner, avec l'espace entre la fin du dîner et le coucher, bah, ils vont se coucher avec une digestion plus avancée. Du coup, le sommeil est de meilleure qualité et le risque de fatigue au réveil diminue. Ah ok, je ne savais pas, mais comment tu vois les choses? Puisque vu mon heure d'arrivée, il faudrait arriver à s'organiser autrement pour que les enfants dînent plus tôt. Tu y as réfléchi, j'imagine? À vrai dire, non, je n'y ai pas réfléchi. J'arrête l'exemple ici. Je suis persuadé que vous avez saisi combien la différence est considérablement énorme, combien la direction change. D'une part, le conjoint receveur de la demande peut entendre et éventuellement comprendre la position de son conjoint demandeur. Mais surtout, le conjoint demandeur vit une impression très intense d'avoir été compris. Cette méthode incite à se centrer sur l'autre. Elle permet aussi de construire ensemble un véritable acteur collaborateur au lieu de placer l'un en demandeur et l'autre en acteur exécutant. Comme je le disais la semaine dernière, cette méthode incite à centrer votre attention sur les motivations de la demande de votre conjoint. Encore une fois, refusez-vous de faire des efforts pour tenter de satisfaire votre conjoint sur un sujet. N'acceptez de faire un effort qu'après avoir identifié le domaine en question. Tant que ce n'est pas le cas, continuez à poser des questions pour bien comprendre le besoin de votre conjoint. Voici une liste de demandes d'efforts à vivre en couple. Imaginez que votre conjoint vous fait ses demandes d'efforts. Exercez-vous pour reconnaître ce qui sont des domaines ou des sujets. Première demande. J'aimerais que tu m'offres des fleurs plus souvent. Autre demande. Ce serait bien qu'on arrive à passer plus de temps ensemble. Autre demande. Parle un peu plus quand on a du monde à la maison. Ce serait bien. Autre demande. Tu sais, j'aimerais plus de soutien dans l'éducation des enfants. Autre demande. Évite de me toucher les fesses quand il y a du monde à la maison, ça me gêne. Autre demande. Achète plus de légumes et de fruits quand tu fais les courses. Encore, exprime davantage tes émotions. Dernière proposition de demande. Quand on est chez mes parents, attends que tout le monde soit servi avant de manger. L'exercice est difficile, je sais. Gardez le cap et allez voir le corriger sur le blog Coupleureux. Il se trouve dans le bas de la transcription de cette émission. L'important est que vous vous appliquiez à identifier les sujets et les domaines. Si vous avez un doute, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires en bas de page sur le blog, ça vous le savez, vous avez l'habitude, à moins que vous préfériez Facebook, mais l'un ou l'autre, c'est pareil. Je les reçois et je vous réponds. Et souvenez-vous d'axer votre attention sur votre conjoint en vous mettant à son écoute. Optez pour la méthode des domaines et la voie royale pour y arriver. À force de pratique, vous vous rendrez compte qu'il vous sera naturel de vous mettre à l'écoute pour glisser du sujet vers le domaine avant de produire le moindre effort. Et j'insiste vraiment pour que ce soit le cas, que vous ne produisiez aucun effort sans avoir à avancer, creuser avec une approche par domaine. En fait, je vous souhaite du plaisir à faire des efforts parce que grâce à cette méthode, les efforts deviennent des opportunités. Ils permettent d'apprendre à se connaître en plus d'être des tremplin vers un dépassement de vos potentiels naturels. Et finalement, vous aurez de la chance d'avoir à faire des efforts. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme « Partager » et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.